Chers amis auditrices et auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude de la Bible dans cette leçon de l'école du sabbat.
Bonjour, chers amis auditeurs. Nous poursuivons nos études de l'école du sabbat du deuxième trimestre 2009 et nous en sommes à la leçon numéro 7 qui couvre la semaine du 9 au 15 mai 2009. Il s'agit là de la grâce. Et un premier verset nous est proposé. Le voici, Romains 5, 8. Or, voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Et la pensée centrale pour cette semaine, citer quelques-unes des images utilisées par la Bible pour nous enseigner le plan du salut. Qu'est-ce que l'expiation ? Dans quelle mesure la notion de substitution est-elle essentielle à la façon dont nous percevons la croix ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir au cours de cette semaine, et voici quelques textes d'introduction. Au cours d'une conférence britannique portant sur une étude comparative des religions, des érudits venus du monde entier cherchèrent à savoir s'il existait une croyance unique à la foi chrétienne. Ils procédèrent par élimination. L'incarnation, d'autres religions possèdent diverses versions de Dieu apparaissant sous forme humaine. La résurrection, là encore, d'autres religions possèdent des récits sur des retours à la vie. Le débat se poursuivait depuis un moment quand l'écrivain chrétien C.S. Lewis entra dans la pièce. « Pourquoi tout ce bruit ? » demanda-t-il. On lui répondit que ses collègues discutaient de l'unique contribution du christianisme par rapport aux autres religions du monde. Lewis répliqua « Oh, mais c'est simple, il s'agit de la grâce. » La semaine dernière, nous avons parlé du péché. Dans la dernière partie de la leçon, nous avons vu qu'une solution nous est offerte grâce à l'intervention de Dieu. L'étude de cette semaine portera sur ce qu'a été cette intervention et ce qu'elle a accompli pour nous. Commençons donc avec le dimanche 10 mai 2009, et pour cette journée, nous allons voir en quoi consiste l'offre de salut divin. Le récit de la façon dont la loyauté d'Abraham a été testée est bien connu. Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Inconscient de ce que Dieu avait demandé à son père, pensant qu'ils allaient simplement offrir un sacrifice quelque part, Isaac a demandé pourquoi il n'avait pas pris d'animal avec eux. Abraham a répondu alors par ces mots prophétiques qui résonnent en écho tout au long des pages de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Genèse 22, verset 8. Nous allons voir maintenant avec quelques textes quelle signification prophétique revêtent les paroles d'Abraham à son fils. Voici tout d'abord un premier texte, Genèse 3 et verset 15. Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu la mordras au talon. Un autre texte dans le livre de l'Exode, chapitre 25 et le verset 8. Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d'eux. Et enfin, nous ouvrons le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, et nous lirons les versets 4 à 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ est au cœur de l'Ancien Testament. Les services du sanctuaire terrestre annonçaient la venue du Messie. Nous trouvons ceci dans Hébreux chapitre 8 et verset 9. Les années qui ont précédé son entrée dans le monde n'étaient qu'un prélude à la croix. Puis, quand les temps furent accomplis, nous dit l'épître de Galates chapitre 4 verset 4, quand les temps furent accomplis, le Christ vint vivre parmi nous. Voici une petite citation d'Ellen White dans son livre Jésus-Christ. À chaque siècle, à chaque heure, l'amour de Dieu s'était manifesté envers la race déchue. Malgré la perversité des hommes, les marques de la miséricorde n'avaient pas cessé d'être prodiguées. Et quand les temps furent accomplis, la divinité se glorifia en inondant le monde d'un flot de grâce salutaire qui ne devait jamais s'arrêter ni se retirer tant que le plan du salut ne serait pas accompli. Pour terminer cette journée, voici quelques lignes de réflexion. Pensons à tous ces longs siècles qui se sont écoulés entre les promesses concernant le futur Messie et sa venue. Quelles leçons de patience et de confiance en Dieu pouvons-nous en tirer au long de nos 70 ou 80 années de vie? Eh bien, ainsi s'achève la journée du dimanche. Avec des images pour exprimer le miracle de la grâce. Comment expliquer à un enfant de 3 ans ce qu'est l'électricité? Comment expliquer à ceux qui vivent au fin fond de la jungle africaine, qui ne sont jamais loin, et à quoi servent les feux de la circulation et comment fonctionne un monte-charge? Comment un physicien pourra-t-il jamais expliquer la relativité d'Einstein à une personne qui n'a pas poursuivi ses études au-delà de l'école élémentaire? Il en est de même pour Dieu. Comment sa parole peut-elle rendre en langage humain ce qui nous dépasse? L'amour divin, dont a témoigné la vie et la mort de Jésus-Christ, ne peut être pleinement traduit en langage humain. Pourtant, Dieu voulait nous donner une idée exacte de ce qu'impliquait le plan du salut. Il a incité les auteurs des Écritures à utiliser un certain nombre d'images. Chacune d'elles nous donne un aperçu de plus sur le mystère de la grâce. Aucune de ces images ne doit être abordée isolément des autres perspectives présentées. Et prises ensemble, cependant, elles donnent un sentiment d'émerveillement et une immense gratitude. Et voyons quelques-unes de ces images utilisées par la Bible pour nous aider à avoir un aperçu profond du mystère de la grâce. Et nous retrouvons le prophète Ésaïe, chapitre 53, et nous lirons les versets 6 et 7. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Nous avons un autre texte, nous le trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est une parole de Jean-Baptiste que nous connaissons. Lisons encore quelques textes. Et ainsi pour illustrer une autre dimension de l'expiation. Là, nous nous tournons vers le livre, vers l'évangile de Matthieu, le chapitre 20 et le verset 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ensuite, dans le livre des Actes, chapitre 20, le verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Notre texte tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6 et le verset 20, « Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Nous devons être attentifs à ne pas utiliser un symbole à l'exclusion des autres. Si l'on combine tout ce qui est dit sur l'expiation, nous obtenons une image aussi complète que possible. Quoi qu'il en soit, l'image d'une rançon, d'un prix élevé versé pour nous, possède une grande puissance. Le Christ nous a rachetés du péché, c'est-à-dire qu'il en a payé le prix. Cette métaphore que, premièrement, elle signifie le moyen utilisé pour notre salut, et ce moyen est coûteux, et que, ensuite, nous sommes passés d'une condition à une autre, de celle d'esclave à un état proche de Dieu. La notion de rédemption implique qu'il y a transmission d'un bien à un certain prix. C'est un petit texte tiré d'un ouvrage de Edward W. Vick en anglais. Et voici une méditation pour terminer cette journée. Le Créateur de l'univers, celui par qui tout est venu à l'existence, a volontairement accepté la croix comme unique moyen de nous sauver d'une ruine éternelle. Cette vérité ne doit-elle pas profondément influencer notre mode de vie? N'est-il pas insensé de nous laisser détourner de la croix? Réfléchissons-y. Et ainsi, nous terminons la journée du lundi. Voici maintenant le mardi 12 mai 2009, et il s'agit de savoir ce qui s'est passé au calvaire. De nombreuses discussions ont lieu entre théologiens sur la doctrine de l'expiation. Deux concepts sont principalement mis en avant. Certains optent pour une vision objective de l'expiation. D'autres défendent une vision subjective. Qu'est-ce que cela signifie ? La première école de pensée souligne qu'il s'est passé quelque chose à un certain moment de l'histoire sur une colline à l'extérieur de Jérusalem. Événement concret, historique, fondement du salut. D'autres théologiens soulignent le fait que c'est notre réaction à la manifestation d'amour et de renoncement de soi de Jésus sur la croix qui est l'élément crucial. Nous sommes transformés lorsque nous contemplons un amour aussi immense. Ces perspectives sont toutes deux vraies, et comprises ensemble, elles se complètent. Voyons maintenant comment la Bible explique la relation entre ce que le Christ a fait pour nous et le sort que le péché nous réserve. Nous avons deux textes, nous revenons dans Ésaïe 53 et nous lirons les versets 4 et 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Notre texte, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, les versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. L'idée selon laquelle Jésus-Christ est mort, afin que nous ne subissions pas la mort éternelle, mais que nous devenions participants de sa vie, cette idée est généralement mentionnée comme étant une substitution. Pour beaucoup, c'est une notion haïssable. Ils ne comprennent pas le langage légaliste souvent utilisé à cet égard, ni l'idée que Dieu est en colère contre le péché. Mais au-delà de ce que nous apprécions ou non, la vérité grandiose est que Dieu a traité le problème du péché de façon qu'il estimait correcte. Étant un Dieu juste, il ne pouvait ignorer le péché. Étant un Dieu d'amour, il ne pouvait abandonner le pécheur. Nous aurions dû subir la mort pour toujours, mais pour nous, sauver Jésus, s'est substitué à nous, et c'est le fondement de notre salut. Alors, en conséquence de ce que le Christ a fait pour nous, en réponse au fait qu'il s'est substitué à nous, nous nous sentons attirés à lui. Nous lui répondons, nous changeons d'attitude envers lui et aussi envers les autres hommes. Tel est l'aspect complémentaire et subjectif du plan du salut. Ce sont des textes inspirés de l'Évangile de Jean, chapitre 12, verset 32, et de l'Épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 1er. Et pour terminer cette journée, voici quelques lignes de méditation. En pensant à notre vie, à nos manquements, à nos errements, nous réalisons que Jésus, sur la croix, a subi le châtiment pour nous. Que ressentons-nous à cette idée? Eh bien, si s'achève cette étude du mardi, le 12 mai 2009, mercredi 13 mai 2009, et cette journée a pour titre « Un changement de cœur ». L'incomparable manifestation de la compassion et de la grâce divine sur le calvaire a changé des millions de cœurs. Dès le moment où le Christ s'est trouvé mourant, cloué à la croix, des gens ont été transformés en contemplant son amour. L'un des criminels crucifiés avec lui s'est rendu compte que Jésus était quelqu'un de particulier et qu'il avait un avenir au-delà de sa mort ignominieuse. Même le centurion romain a compris que Jésus n'était pas un criminel. Nous allons voir maintenant quelle transformation notre vie peut connaître si nous contemplons Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et nous avons encore quelques textes à vous proposer. Tout d'abord, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, et le verset 18. Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Un autre texte, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous lirons les versets 1 à 3. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout de la course qu'on nous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Que le pécheur repentant fixe ses regards sur l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, en le contemplant, il sera transformé. La crainte fera place à la joie, les doutes à l'espérance. La gratitude sera éveillée, le cœur de pierre sera brisé, l'âme sera inondée d'amour. Le Christ sera en elle une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. Quand nous le voyons en Gethsémané, suant des grumeaux de sang, puis agonisant sur la croix, quand nous voyons tout ceci, le moi perd ses exigences. Si nous regardons à Jésus, nous aurons honte de notre froideur, de notre léthargie, de notre égoïsme. Nous consentirons à être n'importe quoi ou même rien du tout, pourvu que nous puissions servir notre Maître de tout notre cœur. C'est encore quelques lignes tirées du livre d'Ellen White, Jésus-Christ. Réfléchissons maintenant dans quelle mesure ces paroles que nous venons de lire reflètent notre propre expérience du Christ. Qu'est-ce qui nous retient de vivre une expérience encore plus profonde avec lui? Les théologiens proposent diverses théories sur l'expiation. Mais quand tout est dit et fait, aucune théorie ou combinaison de théories ne fait suffisamment justice à cette merveille qu'est la grâce divine. C'est une bonne chose de parler ensemble des passages des Écritures qui révèlent les différents aspects du sacrifice de Jésus. Mais ce qu'il a fait pour nous ne doit pas être uniquement un sujet de discussion. Contemplons et expérimentons son sacrifice dans la prière. Même s'il nous est difficile de tout comprendre, nous en savons assez pour nous émerveiller devant ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Voilà, nous terminons donc ce mercredi 13 mai. Titre pour cette journée, c'est « Le Christ, notre salut ». Il est facile pour le chrétien de se laisser détourner de Jésus. La foi de certains se porte soit sur la Bible, soit sur l'Église, soit sur la tradition ou les doctrines. Tout en ayant leur importance, ces aspects deviennent problématiques s'ils nous détournent de Jésus, qui lui seul est notre source de salut. Nous plaçons souvent la vérité au cœur de notre foi. C'est sans conséquence tant que nous ne réduisons pas notre conception de la vérité à une liste de doctrines auxquelles nous adhérons intellectuellement. Notre foi doit s'appuyer sur la vérité telle que Jésus l'incarne. Nous croyons en une personne qui nous a révélé Dieu. Elle est venue nous racheter et actuellement notre médiateur céleste reviendra nous chercher pour nous emmener dans notre véritable foyer. C'est cela le plus important pour nous. Lisons encore quelques textes concernant le rôle central du Christ dans notre foi. Et tout d'abord, dans l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, nous lirons au chapitre 2, les versets 4 à 10. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Ce texte est d'une richesse extraordinaire. Il souligne plusieurs fois que nous sommes sauvés par grâce. Celle-ci est décrite comme étant une richesse surabondante, car elle est issue d'un grand amour dont Dieu nous a aimés. Or, cette grâce est gratuite. On ne la mérite pas. Les œuvres ne nous donnent pas la vie éternelle. Si c'était le cas, nous aurions des raisons de nous vanter de nos œuvres. C'est la grâce de Dieu qui provoque les changements visibles dans notre vie quotidienne et qui nous rend aptes à accomplir de bonnes œuvres. Mais celles-ci sont essentiellement l'action de Dieu en nous. Lisons maintenant la magnifique description sur le rôle central de Jésus pour notre foi dans les paroles de l'apôtre Paul. Nous les trouvons dans l'Épître aux Galates, le chapitre 2 et le verset 16. « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Et c'est ainsi que prend fin cette journée du jeudi 14 mai. Nous allons maintenant nous retrouver pour le vendredi 15 mai qui terminera cette semaine. Et là, nous avons encore quelques textes à vous proposer. Et pour aller plus loin, le livre « Jésus-Christ » d'Ellen White sur l'œuvre du salut en Christ est une référence pour de nombreux adventistes. Nous lisons à la page 755 de ce livre « De même que Jésus crucifié avec deux malfaiteurs fut placé au milieu, ainsi sa croix a été dressé au milieu d'un monde gisant dans le péché. Les paroles adressées aux malfaiteurs repentants ont fait jaillir une lumière qui resplendira jusqu'aux extrémités de la terre. » Fin de citation. Et voici quelques lignes à méditer maintenant qui nous sont proposées pour cette semaine d'étude. Certaines personnes sont choquées à l'idée que Dieu ait pu demander la vie de son Fils en rançon pour les péchés de l'humanité. Cette image nous est présentée dans la Bible. Aussi devons-nous la prendre pour ce qu'elle est. S'il existe une doctrine à laquelle de nombreuses personnes contemporaines s'opposent, c'est bien celle de l'expiation. Beaucoup n'acceptent pas l'idée que le problème du péché doit être résolu par une intervention extérieure. Chacun de nous ne doit-il pas accepter la responsabilité de ses actes ? Comment expliquer la nécessité d'une intervention divine à ces personnes ? Concernant le péché et la mort, comment cela peut-il être résolu, sinon par une intervention divine ? Ensuite, ceux qui sont sauvés par grâce doivent vivre cette grâce autour d'eux. Comment montrer que notre vie se trouve ancrée dans la grâce ? Enfin, pourquoi l'aspect subjectif de la croix est-il également important ? C'est-à-dire, en quoi le fait de prendre conscience de la mort du Christ pour nous peut-il changer notre vie ? La vie de Jésus ne nous encourage-t-elle pas au pardon, à l'humilité, à la patience, à l'amour envers tous ? Comment exprimer concrètement ce que la croix signifie pour nous ? Voici en résumé pour cette semaine. Les théologiens ont développé de nombreuses théories sur l'expiation. La plupart sont défaillantes, ou du moins incomplètes. On peut les comparer aux photos prises des différents côtés de l'Himalaya. Toutes montrent la montagne, sans en donner une image complète. Le miracle de la grâce ne doit pas être réduit à une formule intellectuelle. Il est le fondement de notre foi. Le Christ est mort pour que nous ayons la vie éternelle. Sans lui, nous sommes perdus. Avec lui comme sauveur, notre avenir est assuré. Et ainsi s'achève cette semaine d'études. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. À bientôt, chers amis.
C'était votre leçon de l'école du sabbat. Merci et à bientôt. Que Dieu vous bénisse et Jésus revient.